c'est toute cette remise en question-là. C'est pas juste l'arrêt du rapport. Et même, ça change des choses dans les relations sociales au quotidien, dans nos rapports professionnels. Une fois qu'on arrête la sexualité, on se rend compte que on arrête de minauder. Mais vraiment, même sans le vouloir. Et tout à coup, quand on arrête la sexualité, on se rend compte de ça.
Quand on arrête la sexualité, on arrête de minauder. C'est Ovidie qui le disait au micro de nos amis de France Culture le mois dernier. Elle venait parler de la pièce issue de son livre « La chair est triste, hélas », un texte fort adapté au théâtre et interprété par notre invité cet après-midi. Bonjour Anna Mouglalis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter, actrice, comédienne. Cyril, notre rédacteur en chef, voulait qu'on vous accueille la main sur le cœur en vous appelant Madame la Présidente pendant qu'il jouerait la Marseillaise à la flûte à bec, puisque pour les fans comme nous, de Baron Noir, ce n'est pas Emmanuel Macron qui dirige la France, mais vous. Quoique, Emmanuel Macron dirige-t-il encore quoi que ce soit, on va peut-être en parler aussi parce que vous êtes une artiste engagée politiquement. Mais aujourd'hui, on vous reçoit surtout pour ce seul en scène très fort que vous proposez au Théâtre de l'Atelier à Paris. Vous interprétez le texte d'Ovidie, La chair est triste, hélas. Un plaidoyer féministe façonné autour d'une idée, la grève du sexe. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Mais déjà, c'est vrai que les femmes qui, contrairement à Ovidie, n'ont pas arrêté le sexe, minaudent, même sans le vouloir, comme on l'entendait dans l'extrait de l'interview d'Ovidie tout à l'heure. Est-ce que vous-même, vous êtes déjà surprise à minauder ?
Non, mais on m'a souvent demandé de le faire. Non, mais par exemple, dans les représentations de la sexualité, parce que c'est tout ça dont on parle, on m'a souvent demandé d'incarner un féminin. Je ne comprenais pas exactement de quoi il s'agissait. Non, elle parle des injonctions qui sont faites aux femmes. C'est-à-dire, il faut être belle, rester jeune, être imberbe, en fait, dépenser tout son argent dans des choses que d'aucuns trouvent futiles pour correspondre au canon et rester désirable.
Si elle avait vraiment été à l'Élysée, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Après Baron Noir d'Éric Benzekri, découvrez la nouvelle série politique qui fait peur, Barons-nous, de Sébastien Lecornu. Une œuvre presque dystopique dans laquelle la vie politique française est piégée dans un vortex temporel. À l'instar de Bill Murray dans Un jour sans fin, qui vit et revit sans cesse la même journée, notre président, ayant totalement oublié les résultats des législatives de juillet 2024, nomme et renomme sans cesse des gens de droite à Matignon. Dans un incroyable crossover avec The Walking Dead, on a même failli voir revenir Éric Woerth et Bruno Le Maire au gouvernement cette semaine. Dans cet incommensurable chaos, duquel même la charismatique figure de Sébastien Lecornu n'arrive pas à nous tirer, la gauche doit s'unir. Mais derrière qui ? Olivier Faure ? Lucie Castet ? Non, bien sûr. Moi, je sais derrière qui la gauche doit s'unir. Quelqu'un qui a déjà exercé les plus hautes fonctions et qui, dès la fin du mois, quand elle aura terminé son petit spectacle au Théâtre de l'Atelier, prendra enfin, je l'espère, ses responsabilités. Merci Cyril. Anna Mouglalis, avec nous jusqu'à 18h, Madame la Présidente, Zoom Zoom Zen, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter l'actu sans oublier d'en rire. En compagnie cet après-midi d'Anna Mouglalis, une actrice pour qui on a un immense respect, mais disons-le d'emblée, sachant que nous sommes des salariés de l'audiovisuel public sous la tutelle du ministère de la Culture qui nous écoute, nous distinguons clairement la femme de l'artiste. C'est cette dernière que nous recevons cet après-midi pour évoquer le texte puissant d'Ovidie qu'elle interprète au Théâtre de l'Atelier, pas la militante qui, début 2024, au lieu de répondre aux journalistes qui lui apprenaient la bonne nouvelle, oh formidable, Rachida Dati, ministre de la Culture, quelle super idée ! Laissez échapper cette exclamation devenue depuis un mème sur les réseaux.
Non. Ok.
Mais enfin, mais qu'est-ce que vous avez contre notre super ministre de la Culture ? Nous ici, on l'adore, Anna, on l'adore.
C'est vrai.
Mathieu Noël. Alors, Anna Mouglalis, vous allez nous parler de ce seul en scène, du message d'Ovidie, qui, sans être un manifeste féministe, appelle quand même à faire bouger les lignes de l'hétérosexualité. Juste le temps de vous présenter celle qui a fait une fois une grève du sexe entre 22h12 et 22h47, le 8 février 2018. Manon Mariani, chaque après-midi, vous décryptez pour nous l'actu des réseaux sociaux au programme de votre veille sanitaire.
Ce tube planétaire de Lola Young n'aurait peut-être jamais pu percer sans TikTok. Et des comme lui, il y en a des milliers aujourd'hui. La Gen Z a des playlists remplies grâce aux algorithmes, mais elle commence à en avoir marre. Du coup, elle se tourne vers ce média que l'on dit vieillissant qui s'appelle
la radio.
Et oui, je vous explique tout ça dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Anna Mouglalis, je ne doute pas un instant du fait que vous lisiez chaque matin l'Observateur de Beauvais, mais dans le doute, si jamais ce matin, vous n'aviez pas eu le temps, Quentin l'a lu pour vous.
Et direction Beauvais, Mathieu, la Picardie, qui a trouvé sa miss Emma Boivin, qui va représenter la région en décembre prochain sur TF1, pour peut-être devenir Miss France 2026. Ce que ça raconte de notre époque, je vous le raconte à 17h30.
Effectivement, on a hâte. Côté humour, deux rendez-vous à noter. Trois, si on inclut évidemment la charade du père Lacarrière. À 17h30, Marie de Boer nous parle d'une sombre histoire de bijoux de famille, glanée peut-être elle aussi dans les pages faits divers de l'Observateur de Beauvais. En fin d'émission, Merwan Ben-Lazar viendra répondre, preuve à l'appui, à l'accusation d'Ovidie selon lequel les hommes hétérosexuels ne savent pas faire l'amour. Une accusation largement exagérée selon Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, qui à l'issue du spectacle a même proposé à Ovidie de lui envoyer quelques petites vidéos personnelles tournées au Super 8 pour, je le cite, lui faire revoir ses positions sans mauvais jeu de mots. Fin de la citation. Cyril, heureusement, votre rubrique ne porte pas sur notre sujet fil rouge, mais sur l'actu de ce 8 octobre. Au programme du Lacar News, les trois infos que vous aurez hâte de raconter à la maison ce soir.
Les députés européens disent non au steak végétal. Une prière, pas une prière païenne, une prière pour une icône de la country et un invité étonnant aux réunions des alcooliques anonymes organisées par Ozzy Osbourne.
Le Lacar News, la chronique qui a ringardisé l'énigme du père Fouras, ça sera juste avant la demi. Mais d'abord, Anna Mouglalis est avec nous pour La chair est triste, hélas, un seul en scène qu'elle propose en ce moment au théâtre de l'Atelier à Paris, c'est jusqu'au 26 octobre. Anna, ce texte, c'est une adaptation du livre d'Ovidie paru il y a 2 ans. Alors déjà, comment vous l'avez découvert ce texte ?
C'est mon compagnon qui l'a lu le jour de sa sortie et qui me l'a offert.
Il s'est dit que ça pouvait potentiellement vous intéresser.
Exactement, exactement. Et
ça a résonné en vous tout de suite ?
Oui, c'est très vif, c'est très engagé, c'est assez radical, c'est très drôle aussi. Et en fait, c'est pas un livre de plus engagé, féministe. Elle vient vraiment défricher des endroits qui étaient restés des tabous.
Du coup, vous l'avez rencontré, Ovidie. Comment ça s'est passé ?
Alors, on s'était rencontré via les téléphones et tout ça. Moi, je l'avais contacté au moment où elle avait fait le film sur les policiers du 36 quai des Orfèvres qui avait été condamné en première instance et puis relaxé en appel pour viol. Elle avait fait un documentaire là-dessus et voilà, je l'avais contactée parce que je voulais apporter mon soutien à la victime. Donc c'était des liens de militantisme, on va dire. Et ensuite, non, c'était vraiment un désir de la directrice du théâtre de l'Atelier. Alors, Rose Berthet.
Vous allez certainement répondre tout simplement, Mathieu, vous êtes un peu bête, je suis une actrice, mais comment on fait pour s'approprier les mots si forts, un texte si engagé, si puissant, d'une femme qui raconte aussi beaucoup d'elle dans ce texte ?
Oui, alors elle a fait un montage du texte dans lequel, justement, elle a voulu garder ce qui était le moins personnel. Voilà, ce qui faisait le moins référence à sa vie, ses amis. Il y a beaucoup plus dans le livre, d'ailleurs, j'invite tout le monde à le lire. Mais moi, je trouvais que, justement, c'était, même dans ce montage qu'elle a fait, c'est tellement personnel que ça en devient universel. Et c'était aussi tout l'intérêt de pouvoir le partager sur scène, de passer de la lecture, qui est un exercice quand même solitaire, à ce moment du partage du théâtre. En fait, il y a des rires qui surgissent, parce qu'on rit de notre main. Et c'est assez édifiant pour chaque personne qui est dans la salle. Ça l'a été pour moi aussi.
C'est un peu cathartique, quoi.
C'est cathartique, et même pour les quelques hommes qui viennent, d'entendre que toutes les femmes de 15 ans à 90, d'un coup sont saisies d'un rire qui leur échappe, ça vient raconter beaucoup sur la phrase qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire, il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous différencient par rapport à ce sujet de la
sexualité. On continue d'en parler avec vous, Anna Mouglalis, à suivre. Comme Cyril, vous avez forcément dansé sur... Et même si vous avez moins de 70 ans, vous connaissez sans doute Dolly Parton, l'icône de la country. Eh bien, figurez-vous qu'elle ne va pas fort, la Dolly. Cyril, qui s'est rendu à son chevet, vous donne des nouvelles dans le Lacar News, juste après la nouvelle icône de la country, Beyoncé, Bodyguard, sur France Inter. 1, 2, 3, 4... Oh,
Saint-Père, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Une victoire pour le bon sens et un camouflet pour ces crétins de vegan, s'exclamait Cyril en découvrant la nouvelle. Les députés européens viennent de voter une loi qui interdit aux industriels d'utiliser le mot viande si le produit n'en contient pas. Cyril nous explique ça. Quant à Quentin, il nous entraînera en Picardie à la rencontre de celle qui sera peut-être la prochaine Miss France. Mais pour l'heure, on continue d'évoquer le ras-le-bol des femmes. Anna Mouglalis est avec nous pour son seul en scène actuellement au théâtre de l'Atelier à Paris, où elle interprète le texte d'Ovidie, La chair est triste, hélas. Anna, ce texte, c'est l'histoire donc d'Ovidie, ancienne actrice porno, militante féministe, qui a décidé de faire une grève
documentariste,
documentariste, ouais.
À l'université. Ouais, non, mais
elle est tant de choses aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison de le dire. Elle explique comment cette idée d'arrêter d'avoir des rapports sexuels tout simplement avec les hommes, des rapports hétérosexuels, lui est venue. Et pour qu'on comprenne comment tout ça s'est fait, je voudrais qu'on écoute un extrait du spectacle.
Un jour, j'ai arrêté le sexe avec les hommes. Ça fait 5 ans que je fais la grève du sexe. Je me suis pas réveillé un matin en me disant « Demain, j'arrête », comme on se mettrait au régime ou on jetterait ses dernières cigarettes. Un an auparavant, il y avait déjà eu un précédent. Un signe annonciateur du chemin que j'allais finir par suivre. En guise de proto-expérimentation de ma sortie de la sexualité avec les hommes, j'avais déjà entamé une grève de la pipe.
Ça commence par une grève de la pipe. C'est vraiment c'est ça qui a amorcé sa trajectoire de ce côté-là, Ovidie.
Oui, alors la phrase qui suit, c'est venu suite à une confession d'une amie à elle qui lui avait dit refuser de sucer ses amants tant qu'elle n'avait pas joui.
Mais finalement, ça paraît assez évident parce que pourquoi pas finalement, oui, c'est vrai.
Bah oui, pourquoi pas, c'est-à-dire pourquoi pas, sans arrêt essayer de satisfaire l'autre, sans que, voilà, effectivement il y a eu une mise à disposition souvent du corps des femmes, on leur reproche de pas assez aimer le sexe, de pas vouloir assez, ce qui veut dire que bon, certaines fois quand elles passent à la casserole, ça s'appelle en fait du viol, forcer c'est violer. Donc on parle de tout ça, de tous ces traumas, et c'est bouleversant de voir que voilà, il y a des jeunes filles qui sont dans le début de leur sexualité, mais qui ont déjà vécu tout ça. Et des femmes, certaines qui ont l'âge d'être mes grands-mères, et à qui ça fait beaucoup du bien de l'entendre, parce qu'on est la sexualité, c'est censé, voilà, on ferme la porte à coucher et on n'en parle plus. Et en fait, il y a beaucoup de choses dont il faut parler, parce que il faut plus s'isoler, c'est des expériences communes, en fait, l'intime et politique, enfin, on le dit.
Et du coup, vous êtes aussi posé la question, Anna Mouglalis, d'arrêter le sexe?
Décider de se respecter, par exemple, et de ne pas se forcer, oui. Bien sûr, et ne pas accepter par exemple que le partenaire fasse la gueule parce qu'il serait frustré. Mais d'ailleurs, il y a plein de choses, il y a plein d'études formidables, cette injonction qui est faite aux hommes aussi, qui sont censés être tout le temps disponibles sexuellement, c'est une aberration. Et généralement, quand ils se retrouvent face à une femme désirante, ils peuvent être complètement perturbés, parce que comme c'est à eux qu'on demande d'être en permanence vaillant,
viril,
voilà, et désirant, le désir de la femme peut couper le leur, ce qui est quand même fou.
À qui s'adresse ce texte pour vous?
Il s'adresse à tout le monde, en fait. Il y a vraiment c'est un cri de colère par rapport à la misogynie institutionalisée. Mais un cri de colère, c'est déjà un mouvement, c'est un espoir. L'espoir est une discipline.
Un cri de colère avec des rires dans la salle. Il faut le préciser quand même, parce que le texte est drôle par moments, tragique et drôle. Donc il y a les deux. Ovidie parle des hommes hétérosexuels qui ne savent pas faire l'amour.
Non, elle dit qu'ils baisent mal.
C'est vrai, ils baisent mal. Et comment ils pourraient baiser mieux?
Éventuellement, enfin, je sais pas, on parle là, on va devenir politique, mais c'est tout l'intérêt du spectacle. Il n'y a pas de formation d'éducation affective et sexuelle à l'école. On l'abandonne en fait à la pornographie, une pornographie gratuite dans un monde où rien n'est gratuit, c'est un peu louche. Donc voilà, ce texte, c'est une forme d'éducation, bon, pour adultes là, mais d'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est-à-dire il faut en parler, c'est enfin voilà, c'est censé être de l'abandon, du plaisir, de l'intime. Souvent c'est juste un endroit où la domination s'exerce à nouveau. Mmh.
Et par rapport aux fameuses injonctions, ce qui est intéressant aussi, c'est de revenir à la dimension économique, c'est-à-dire tout ce que ça coûte à une femme aujourd'hui, quand elle veut se conformer aux clichés qu'on lui a inculqués, que la société nous renvoie tout le temps, ça coûte un pognon de dingue, dirait l'autre.
Et du temps aussi, par exemple. Enfin, je sais pas, ne serait-ce que sur les plateaux de cinéma, mais c'est la même chose pour aller au travail. Il y a des femmes qui vont se réveiller une heure et demie plus tôt pour avoir le temps de reprendre le masque qui leur permet d'avoir le travail. Je sais pas, il y a des serveuses, on les oblige à être sur des talons et en mini-jupe, enfin, c'est tout ça qui pèse, sans compter le fait que, en plus, en se conformant à cette image-là, ben, on est immédiatement, enfin, je sais pas, harcelé, ou, c'est des doubles injonctions qui sont, bien sûr qu'on n'est pas harcelé à cause de la façon dont on s'habille ou on se maquille, mais voilà.
Vous écoutez France Inter, il est 17h26. L'heure de battre en brèche les propos quelque peu caricaturaux d'Ovidie, selon qui les hommes hétéros baisent mal et feraient moins d'efforts pour se rendre désirables que les femmes. Car enfin, quand le soir venu, Cyril Lacaire rejoint son épouse, pour qui il a toujours une petite attention, que ce soit une côte de bœuf maturée ou un flan pâtissier, qu'il retire son duffel coat Daniel Echter pour chausser ses élégantes pantoufles slip français, et qu'il attise la flamme du désir en prononçant une phrase sexy comme « En voiture Simone » ou « Monte là-dessus, tu verras Montmartre ».
Oh non.
Comment peut-on sérieusement dire que les hommes hétéros ne savent pas y faire? Moi, je ne comprends pas. Cyril, avant de rentrer chez vous pour faire mentir Ovidie, vous nous livrez le Lacaire News. Les trois infos qu'il ne fallait pas manquer en ce mercredi 8 octobre. Et on démarre avec l'interdiction du jour.
Steak végétal, c'est non. Et burger veggie, c'est non aussi. Les députés européens ont voté l'interdiction des termes comme steak, saucisse ou hamburger si les produits en question ne contiennent pas de viande. Et ça a divisé le Parlement européen. La droite était pour, la gauche était contre, surtout les écolos d'ailleurs. Ils accusent le lobby de la viande de vouloir affaiblir la concurrence dans le domaine alimentaire. Quand les partisans de l'interdiction, eux, disent vouloir de la clarté pour le consommateur et de la reconnaissance pour le travail de nos éleveurs. Un burger veggie, si vous voulez mon avis,
oui. Hein,
drôle d'idée. Quand je pense que ce midi, Mathieu Noël, ici même, a enchaîné œufs mayonnaise, parmentier de canard et frites
c'est faux.
Chez Blériot,
c'est simplement faux. Ils m'ont apporté des frites, mais ils ont mal compris une réflexion que j'ai faite.
Vous les avez mangées quand même?
Non, je ne les ai pas touchées. Oui. Les mémoires du jour, Cyril.
La réunion des alcooliques anonymes qui se déroulait chez Ozzy Osbourne, alors ça peut paraître étonnant comme ça, mais le rocker et fondateur du groupe Black Sabbath organisait bien chez lui des réunions pour les alcooliques qui tentaient de se soigner. Eh bien, dans les mémoires de Ozzy Osbourne qui viennent de paraître, on apprend qu'il a accueilli Matthew Perry, le chanteur de Friends. Ah. Osbourne écrit que c'était un type très drôle et très doué et qu'il faisait tout son possible pour rester sur le droit chemin. Fin de citation. Le rocker écrit qu'il a été très triste d'apprendre le décès de l'acteur. Il a été retrouvé mort, je le rappelle, dans son jacuzzi, une mort probablement due à des excès de kétamine, une drogue qu'a d'ailleurs essayé Osbourne, il le dit aussi, il le raconte, j'allais dire évidemment, mais ça lui a pas plu et il a fait une cure pour s'en débarrasser.
Enfin Cyril, la prière du jour.
Je crois vraiment au pouvoir de la prière et j'ai demandé à tous ceux qui aiment ma sœur d'être des guerriers de la prière et de prier avec moi. C'est la sœur Dolly Parton qui nous invite donc à prier. La chanteuse de country de 79 ans est malade. Elle a été contrainte d'annuler une série de concerts à Las Vegas, des concerts qu'elle a reportés à septembre l'année prochaine, preuve quand même d'une certaine confiance en l'avenir. Elle a aussi annulé une représentation à la cérémonie des Oscars d'honneur prévue le mois prochain. Malgré ça, Dolly Parton garde son humour. Elle a posté un message sur les réseaux sociaux.
Il doit être temps pour ma révision des 100 000 miles, bien que ce ne soit pas le voyage habituel chez mon chirurgien esthétique.
On profitera, sacré Dolly. On profitera de notre passage à Marseille vendredi pour aller déposer un cierge à Notre-Dame de la Garde pour Dolly Parton, inoubliable interprète de Jolene.
C'est un peu loin de notre hôtel, Notre-Dame de la Garde, mais bon.
Un taxi.
Anna Mouglalis, qu'est-ce que vous faites vendredi? Vous venez pas nous voir à Marseille? Vous avez un lien avec Marseille, non?
J'adore Marseille.
On y sera. En public. Et je le rappelle, où ça? Cyril ?
Au Mucem, dans l'auditorium du Mucem. Réservation, fiestadesud.com.
Fiestadesud.com. Et aujourd'hui,
on est quasi complet.
Mais très très loin, vraiment, de Marseille. On part en Picardie avec vous, mon cher Quentin.
Avec cette une du journal local, l'Observateur de Beauvais que j'ai découvert, qui titre cette semaine « Et si une Beauvaisienne devenait Miss France ?» Sur la photo, Emma Boivin, une infirmière de 24 ans, fraîchement élue Miss Picardie. Elle est tout sourire avec une veste rose bonbon recouverte par son écharpe de Miss, des cheveux blonds impeccables avec le sourire figé devant la cathédrale de Beauvais. Oui, Beauvais Manon, là d'où vous partez pour 15 euros pour Barcelone pour devenir la Marianoche. Hey. C'est moins cher. Comme on l'a appris...
Ryanair.
Oui, comme on l'a appris dans le célèbre La Car News la semaine dernière, la soirée de Miss France 2026 va se tenir au Zénith d'Amiens cette année, la locale de l'étape, donc c'est Emma, et toute la presse locale est derrière elle. L'emporter à domicile pour la Picarde sera un moment de grâce incroyable qui lui met, elle le concède aux journalistes, une petite pression positive sur les épaules, d'autant que le Nord en général est connu pour son engouement pour le concours Miss France. D'ailleurs, la région vote chaque année massivement pour soutenir les jeunes femmes qui représentent les régions.
Mais pourquoi cette une a retenu votre attention, mon cher Quentin ?
Parce qu'on vit dans deux mondes qui coexistent. D'un côté, on a le discours féministe qui s'est invité partout, des réseaux sociaux au plateau télé, on parle de l'acceptation de soi, de la fin des injonctions, du body positif, du corps objectivé, on vient d'en parler. Et d'un autre, on a le concours de beauté, Miss Département, Miss Région, Miss France, Miss Univers, et ça cartonne. Ils étaient 2500 à Beauvais pour applaudir Emma Boivin le 28 septembre dernier. Et puis la soirée Miss France qui continue de rassembler des millions de foyers devant TF1, paillettes, larmes, discours et même Jean-Pierre Foucault comme un rituel d'un autre temps. On commente les robes, les cheveux, la prestance, on débat du charme naturel depuis le canapé en famille, souvent sans malaise apparent d'ailleurs. Oh, elle a une drôle de mâchoire, elle, c'est vulgaire ce maquillage. Dans le Nord, c'est même vécu comme une fête locale, un moment de fierté collective. Deux mondes qui cohabitent, parfois dans le même salon, pendant que l'une prône la liberté des corps, l'autre note les mensurations. Mathieu.
Mais quand même, j'ai vu sur cette une que l'article juste en dessous.
Ah, allez-y.
Ah, alors. L'œil d'Anna Mouglalis.
Non.
À Beauvais pour Octobre Rose, Fanny redonne confiance aux femmes avec ses tatouages.
Exactement. Donc, c'est les femmes battues qui ont des séquelles et ont fait disparaître ces marques avec des tatouages. C'est des initiatives assez formidables. Donc, ce que je veux dire, c'est que la
c'est qui s'est trompé de sujet, quoi.
J'aurais pu faire l'autre sujet.
Non, c'est vrai. Et il faut choisir de quoi on parle.
Et voilà, une petite leçon pour Quentin.
Mais vous ne trouvez pas que, justement, vous en pensez quoi de ces concours ? Miss France, vous regardez Miss France ?
Non. Bah non, surtout pas. Donc après que, enfin voilà, que ça soit encore présenté comme une possibilité d'émancipation, j'entends, mais je suis pas là pour juger. Il y en a pas tant que ça, des possibilités d'émancipation, mais je suis pas sûr que ce soit un super chemin.
Mais Anne Maurice, je vous pose la question, vous êtes aussi, il y a un petit paradoxe, c'est que vous êtes aussi une égérie, une ambassadrice de beauté, d'une grande marque. C'est pas incompatible tout ça, vous êtes à la fois, vous jouez sur votre physique aussi, dans une certaine partie de votre vie, pas dans la totalité bien sûr.
Non, je vois, enfin, pour moi ça n'a pas grand chose d'incompatible, si ça m'avait rendu malade, oui. Il se trouve que ça m'a apporté beaucoup plus de choses, mais
ça vous a ouvert des portes, en fait.
En fait, enfin, j'ai été juste, ça a été aussi une grande autonomie financière. Au-delà de ça, je n'ai jamais fait de mannequinat.
Oui, ça c'est très différent.
Donc, c'était plus, la relation avec Karl Lagerfeld a été magnifique et dans le milieu de l'image, du spectacle, c'était assez exotique d'être avec quelqu'un qui ne me demandait pas justement de passer à la casserole.
Ah oui, c'était rare.
Ah bah oui.
Vous êtes égérie Chanel et syndiqué CGT, j'ai entendu ça.
Ouais.
Et fier de l'être.
Très fier de l'être. Tout le monde devrait s'indiquer.
Anna Mouglalis qui interprète le texte d'Ovidie, c'est un des événements de cette rentrée théâtrale. On continue d'en parler, mais on salue celle qui vient de nous rejoindre en studio. Bonjour Marie De Breuer.
Bonjour. Alerte arnaque aux bijoux pour faire son deuil. Des Gaulliers, non, ça commence comme hier.
Ah, tu repars.
Ah, c'est terrible. Ça,
les mots ne viennent pas.
Des Gaulliers avec les empreintes de vos proches décédés. Voilà. Heureusement que je suis là pour que vous vous fassiez pas avoir et vous évitez de porter un bijou immonde par
sinon,
la même occasion.
On serait tombé dans le panneau. La chronique de Marie, c'est juste après UFOs, dont on ne peut pas dire qu'il se soit foulé pour le titre de cette chanson, puisqu'on écoute UFO sur France Inter.
So I do believe.
Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
À suivre dans Zoom Zoom Zen, ils en avaient marre que l'algorithme de Spotify leur dise quoi écouter. Les étudiants des campus américains découvrent un média incroyable, la radio. Oui. Manon vous raconte ce qui se passe aux États-Unis, mais pour l'heure, je me tourne vers vous, Marie De Breuer. Vous nous parlez d'une arnaque aux bijoux pour faire son deuil.
Pas fastoche hein, de faire son deuil. Personnellement, je ne me suis toujours pas remise de la mort de Carlos, 7 janvier 2008. Oh là là, je suis toujours coincée à l'étape 2 du deuil, la colère. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Si seulement je lui ai fait un big bisou. Pour avancer, je me suis fait tatouer Tiroli Pimpon sur le chihuahua. Voilà, comme ça, il restera gravé sur ma peau à jamais. Je peux pas vous montrer le tatouage parce que c'est au niveau du bas-ventre, mais c'est magnifique. Hein, c'est un chihuahua avec la petite langue qui sort. Et tout le design est hyper bien foutu, hyper réaliste, avec du détail. Alors que c'est une zone où la peau est très fine, hein, très sensible. Bon, bref, le deuil. Il y a une nouvelle tendance sur le marché du deuil, les bijoux éternels. Voilà, c'est des bijoux avec empreinte digitale d'un proche décédé. Donc, sur un bracelet, un collier, un plug anal, enfin, toutes sortes d'accessoires mode, quoi. Donc, ça ressemble à un pendentif en forme de cœur en argent avec une empreinte et un petit mot comme mon ange ou c'est bien fait pour ta gueule, Didier. Je t'avais dit de pas la manger sans ton dentier, cette chouquette. Enfin, après, c'est personnalisable. À l'origine, l'entreprise qui fabrique ces bijoux avait essayé de faire des moules d'autres parties du corps, les bourses notamment, qui sont tout aussi uniques que les empreintes digitales. C'est d'ailleurs comme ça qu'on identifie les corps en Lituanie, figurez-vous. Malheureusement pour le fabricant de bijoux, il se sont rendu compte que les bourses, ça faisait des boucles d'oreilles trop lourdes. Et voilà, ça faisait mal au lobe, dommage. Il y a une femme, du coup, qui s'est fait arnaquer. Voilà, elle voulait un bijou éternel avec l'empreinte du doigt de sa daronne, et c'était pas le doigt de sa daronne. Et alors, comment elle s'en est rendue compte ? Oh bah, la dame qui s'est fait arnaquer est médecin légiste, voilà. Ah oui. Et alors, non seulement ce n'est pas l'empreinte digitale du doigt de sa mère, c'est pas une empreinte du tout, voilà. Moi, j'ai bien regardé l'image, hein, et il s'agissait en réalité d'une patte d'ours. Voilà, c'est dingue, hein, ce que les gens sont capables de faire pour l'argent. Aller récupérer l'empreinte de la patte d'un ours mort, c'est dingue. Hein. Le PDG de l'entreprise s'est défendu sur cette histoire de fausse empreinte. Il a déclaré « c'est une interprétation artistique ». Bon, ok, ça devient juste n'importe quoi, quoi. Imaginez si tous les professionnels de la mort faisaient ça. Alors, pour la photo sur la plaque funéraire, on a choisi de ne pas mettre votre mamie, voilà, mais Yolande Moreau. Bon, ça va, c'est pareil, elles ont quasiment les mêmes traits. C'est interprétation artistique. Après, petit détail, Yolande Moreau n'est pas morte, hein, contrairement à mamie qu'on embrasse là où elle est. Moi, ça me plairait pas, je crois, qu'on fasse un bijou avec mon empreinte de doigt après ma mort. Déjà, avec mes paluches, c'est pas un collier que tu vas avoir, mais une minerve. Hein. Là, pour le coup, si tu mets une patte d'ours à la place, même le médecin légiste, il y voit que du feu. Zaya, oui, je name drop un peu là dans ma chronique, suivez-moi. Zaya, elle a fait des chocolats en moulant ses fesses et ses nibards. Ça me plaît. Voilà, hein. Quand je meurs, je veux un moule géant de mon corps en chocolat au lait fourré à la praline et aux pistaches. Et je voudrais que les gens me graillent jusqu'à la dernière miette. Et je peux te dire, quand t'as fini, tu te tapes une drouille. Oh là là, t'as bien le temps de le faire, ton deuil. Oh oui, au cabinet, tu passes direct à l'étape 3. Non, attendez, c'est l'étape 3 ou 4, les hémorroïdes dans le deuil, je sais plus. Cette chronique fait d'ailleurs office de testament. Hein. Il y a un notaire en régie. Je pars faire le moule de mon corps juste après l'émission. Hein. Vous savez pas le faire post-mortem, parce que je serai toute raide. Et j'ai prévu d'une position rigolote. Je vous en dis pas trop, mais disons que j'ai pas perdu toutes mes skills hein, de mes cours de danse classique en termes de souplesse. Vous comprenez, hein. Bah, imaginez une immense statue en chocolat en taille réelle de moi qui fait le grand écart. C'est pas compliqué, merde. Vous allez vous régaler quand je serai morte.
Merci Marie, on se régale déjà avec vous vivante. Vous savez. Et vous savez qui a moulé la main de son être aimé, son être cher, et elle l'embrasse avant de monter sur scène. Elle l'embrasse avant de monter sur scène à chaque concert.
Céline,
c'est Céline. Ah, évidemment, c'est la main de René est en coulisses.
Je suis pas sûr qu'elle l'embrasse. Je crois qu'elle
elle
caresse la main.
Oui, elle le salue.
Vous êtes un spécialiste visiblement. Et oui, les amis. Marie De Breuer est très drôle, mais la chair est triste. Et là, c'est l'adaptation du livre d'Ovidie actuellement au théâtre de l'Atelier, un texte interprété par Anna Mouglalis, qui est notre invitée cet après-midi. Anna, ce texte, il fait un peu écho à votre propre histoire. Vous avez porté plainte l'an dernier pour agression sexuelle contre le réalisateur Jacques Doyon, tout comme Isilde Besco.
J'ai jamais porté plainte.
Vous avez
Non, j'ai témoigné.
Vous avez témoigné. Vous n'avez pas porté plainte?
Non, non, j'ai jamais porté plainte.
Parce qu'il n'y avait pas possibilité ou parce que vous n'aviez pas envie?
Parce que... Enfin, c'est... Non, pour certaines affaires, il y a eu des, voilà, des cas d'agression. Mais des agressions, comme je disais, qui étaient tellement banales que non, ça ne m'était même pas passé par la tête. Non, j'ai témoigné pour voilà, apporter ce témoignage de plus au témoignage des plaignantes. Puisque c'est des choses que j'ai vraiment vécues.
Quentin. Vous avez aussi témoigné devant la commission d'enquête sur les violences dans la culture. Qu'est-ce qu'il en est ressorti, cette commission?
Je trouve qu'il en est ressorti que, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné de violences systémiques au regard de tous et qu'on avait en face des hommes qui disaient n'avoir rien vu, ne pas comprendre ou avoir juste été lourd. Il en est ressorti ici qu'il y a des préconisations, qu'en fait il existe un code du travail et qu'il faut le respecter.
Dans la pièce, il y a un moment très fort, c'est quand Ovidie parle de viol, elle en parle de manière normale à sa psy, comme si elle avait intégré que le viol, que l'agression sexuelle, et c'était devenu banal. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui que c'est la réalité, que c'est devenu banal?
Ça ne l'est pas devenu, hein. Ça fait des siècles, peut-être pas toujours, parce que... Peut-être pas pour toujours non plus, mais j'entends beaucoup de gens qui s'hérissent en parlant de radicalité, de les chiffres par exemple qu'elle donne et que je redis sur scène sont pas des idées farfelues, hein, c'est pas une opinion, c'est vraiment ce sont des faits. Et on dit souvent, ah oui, mais alors il y a plus de nuances. Il y aura de la nuance quand il y aura moins de viols et moins de féminicides. Il y a 250 femmes violées chaque jour en France.
Pour revenir un instant au milieu du cinéma, plus spécifiquement, il y a évidemment Judith Godrèche, Adèle Haenel. Est-ce que, vu de loin, quand on ne fait pas partie de ce milieu, on se dit aujourd'hui, il y a eu la commission, on se dit aujourd'hui ça ne peut plus exister ça. Aujourd'hui dans le cinéma, tout doit bien se passer. J'imagine que malheureusement c'est candide de penser ça. Mais les choses évoluent malgré tout, vous sentez une différence aujourd'hui? Les réalisateurs, et d'ailleurs tout le monde sur un plateau, se permettraient plus la même chose qu'il y a 10-20 ans?
Je pense que la différence, c'est qu'aujourd'hui, ça retombe sur l'employeur qui est le producteur.
Et ça change tout.
Ça, si c'est utilisé, oui. Mais ça vaut... parce que, c'est extrêmement hiérarchisé. Tout le monde n'a pas les mêmes attentions. Parce que le fait d'écarter plutôt les victimes, par exemple chez les techniciennes, que d'écarter les agresseurs, ça se pratique encore.
La différence aussi aujourd'hui, c'est pas cette sororité qui existe, le texte d'Ovidie est aussi un espèce d'appel à cette sororité.
Ça, je trouve que ça change. Ouais. Ça change beaucoup. Il y a de plus en plus de femmes conscientisées. Là, on est sur une rentrée théâtrale quand même particulière, avec plein de textes de femmes portés par des femmes. Mmh. Il y a plein de textes en librairie. Il n'y a plus une librairie sans son petit corner féministe.
Justement, vous dites que vous-même, vous ne lisez plus que des livres écrits par les femmes.
Ouais.
Pour quelle raison?
Parce qu'en fait, c'est tout le sujet aussi du spectacle d'Ovidie. Ovidie, c'est à travers cette grève du sexe, donc la sexualité. Mais il faut se décoloniser. Moi, j'ai grandi, mais comme vous tous, avec l'universel masculin. Tous les grands romans qu'on appelle chefs-d'œuvre, c'était systématiquement des protagonistes qui étaient masculin, auquel je me suis identifiée. Et je me suis rendu compte que par rapport à la littérature féminine, il y a une telle misogynie, c'est tellement nul d'être une femme, tellement humiliant, que les gens ne veulent pas s'identifier aux femmes, ni dans les romans, ni dans les films. Donc il a fallu que moi, je me décolonise de tout ça. Et il y a toujours eu une superbe littérature écrite par des femmes. Il y a eu des compositrices, il y a eu de tout en fait. Les femmes ont toujours créé. On n'est pas orphelines.
Vous écoutez France Inter, il est 17h47. C'est normalement le privilège du Zoom Zoom Blind Test. Mais Manon, vous avez obtenu une dérogation spéciale aujourd'hui, une chronique musicale.
Quel est le point commun entre ces trois titres?
Ouais.
des trois plus gros hits de cette année et les trois ont été popularisés par TikTok, forcément. Et je pourrais en citer des centaines d'autres comme ça. Depuis quelques années, la plateforme est devenue the place to be pour, dans l'industrie musicale. Il suffit qu'un son y devienne viral pour accompagner et le tour est joué. Même Taylor Swift, la reine des charts, tente de rentrer dans ce jeu avec son dernier album. Elle a publié une vidéo lundi où elle danse sur un de ses titres. Le but, encourager ses fans à reprendre sa chorégraphie et faire le buzz, évidemment, sur la plateforme. Mais cette programmation musicale poussée par l'algorithme a des conséquences, en particulier chez la jeune génération. La Gen Z, première consommatrice de TikTok, elle ne découvre plus de musique par elle-même. C'est ce que révèle une étude d'un cabinet d'analyse britannique spécialisé dans les industries culturelles. Les 16-24 ans sont moins susceptibles aujourd'hui de découvrir un artiste qu'ils aiment que les millennials.
Alors concrètement, ça se passe comment ?
Eh bien qu'ils ne cherchent plus des nouveaux titres, mais qu'ils se contentent d'écouter des artistes poussés par leur algorithme. Alors je parlais de TikTok, mais Spotify fait exactement la même chose quand elle propose des playlists personnalisées en fonction de nos likes et en fonction de nos écoutes. Elles sont désormais pas mal décriées sur Reddit. Des utilisateurs disent qu'elles sont devenues aseptisées, commerciales et que Spotify pousse des artistes qui marchent déjà pour augmenter les streams. Mais du coup, comment faire quand on est jeune, quand on est connecté pour passer outre les algorithmes ? Eh bien, certains ont trouvé une solution, la radio. Oui, on revient à la mode. J'ai lu un papier très intéressant sur Substack à ce sujet. Il a été écrit par Emily White, qui est responsable produit à Musique et Tech et qui a travaillé pour Spotify et le magazine Billboard.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ?
Eh bien, selon son enquête, ce sont maintenant les radios des campus américains qui redeviennent populaires. Aux États-Unis, chaque université a sa propre radio locale. Elles étaient hype dans les années 80, 90 et 2000, avant d'être délaissées avec l'arrivée des réseaux et de Spotify. Mais la Gen Z est en train de leur redonner un second souffle. À l'université du Kentucky, par exemple, il y a eu plus de 350 inscriptions cette année à leur radio et plus de 100 émissions sur l'antenne. Selon son directeur, c'est la première fois en 37 ans qu'il y a autant d'étudiants qui s'inscrivent et qu'ils ont été contraints d'en refuser. Même chose à l'université de Cornell ou à la Boston College. Leurs stations de radio autrefois désertées sont maintenant prisées par des DJ en devenir qui veulent se reconnecter avec leur génération. Alors certains piochent donc dans les audiothèques de leur campus remplis de CD et de vinyle. Depuis les années 70, les programmateurs laissent des commentaires sur les disques. C'est comme un fil de discussion analogique, dit l'un des étudiants. Résultat, leur programmation est très éclectique. À la Boston University, par exemple, il y a des émissions 100% années 90, une autre qui se focus sur des titres de groupes inconnus ou encore une autre spéciale chanson féministe.
Il y a une part de nostalgie quand même, en fait.
Alors oui, mais ça va au-delà. Ce retour des radios montre aussi l'envie de la Gen Z de ne pas se laisser envahir par les algorithmes et remettre en question les goûts qu'on leur impose. Sur TikTok, par exemple, dans les commentaires des vidéos de concerts des années 90-2000, des jeunes s'émerveillent de voir qu'il n'y avait aucun smartphone qui filmait. Sur Reddit, d'autres parlent de la place des bandes originales dans les séries, notamment. Il y a une dizaine d'années, il y avait des vraies recherches pour concocter des BO et les faire découvrir des groupes indépendants, alors qu'aujourd'hui, elles sont bourrées de titres du moment. Aux États-Unis, l'émission culte Danse avec les stars a même fait une spéciale musique de TikTok dans une de ses émissions. Il y a moins de recherches, alors qu'il n'y a jamais eu autant de productions. Drôle de paradoxe, mais peut-être que la radio va kill the TikTok star.
Mmh. Oh, oui. Excellente chute, Manon. J'ai envie de vous applaudir, mais je ne le ferai pas, car je me maîtrise. Soit,
ça va.
Soit l'homme hétérosexuel qui nous a rejoint n'a rien écouté de ce qu'on a dit pendant une heure, soit il a une bonne nouvelle à nous annoncer. Personnellement, je pense que c'est les deux. Merwan Ben Lazar, ne me dites pas que vous avez enfin trouvé un logement.
Oh oui, le bail n'est pas signé, le propriétaire n'a pas fui en voyant moi et ma femme. Donc, a priori, on est sur la bonne voie.
On est sur la bonne voie. La chronique de Merwan Ben Lazar, c'est juste après Clara Luciani et Yamé, le mur sur Inter.
C'était que mon frère. Dès que je t'ai vu, j'ai su que ça serait douloureux. La célébrité m'appelle, elle est jalouse. Elle est piquée, c'est mort. Et va me rendre fou. Entre le stud et la scène, j'ai
LA. Des millions d'écoutes, j'ai même pas une minute pour toi. Dans ma fast life, je peux pas ralentir. Es-tu sûr que tu veux me suivre? Pour le meilleur et pour le pire.
J'aime le sabotage, tu es trop sage. Si tu ne veux rien risquer, tu me perds au passage.
Mathieu Noël sur France Inter.
Le patriarcat, les femmes l'ont combattu depuis des siècles. Mais il est grand temps qu'un homme finisse le travail. Des mots abjects écrits par Merwan Benlazar, qui sera ce week-end en spectacle à Arles et bientôt à Lausanne et Bruxelles. Mais cet après-midi, avec nous en studio. Bonsoir, mon petit protégé.
Bonsoir et merci à toi. Tu es excellent pour faire ma promo, finalement. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonjour à toutes les femmes qui nous écoutent, car cette chronique... Allez, pour vous, on parlait du combat des femmes, on vous a écouté pendant cette émission. Anna Mouglali, je le dis bien ou on prononce le S? Je l'ai bien dit?
Ouais, ouais,
très okay, bien. Ok, merci beaucoup. J'aime bien, c'est rare que les invités ils disent aussi du bien de ce que je fais. Mais il est temps, on vous a beaucoup écouté pendant cette émission, mais il est temps de laisser parler un homme. Et heureusement que je suis là, parce que avant vous parliez de féminisme entre blancs finalement. C'était vraiment blanc là, avant que j'arrive. On était à un chroniqueur de passer sur TMC à 18h50, mais non. Non, on est inclusif à Inter. Regardez, il y a Manon, elle est là tout le temps, c'est une femme. Il y a moi, mais fais gaffe, s'il trouve une femme arabe, il nous vire tous les deux, ils économisent un salaire, en vrai. Ah ouais, et il y a des gens qui nous écoutent, ils doivent dire, oh, ils sont pas un salaire frais à la radio. Si, mais donc. On n'est pas là pour régler des comptes personnels non plus, mais voilà, donc ils cherchent là actuellement, c'est ce que je sais. Mais donc, je vanne quotidien, mais c'est blanc, Inter, hein, c'est blanc. La plus noire ici, ils l'ont viré, c'était Morgan Cadignan. Une fois, j'ai proposé mon Sri Lankais co-auteur pour faire des chroniques à la programmation. Ils m'ont dit on a ce qu'il faut en cuisine. Non, c'est terriblement blanc, Inter. Ça va, c'est lui qui l'a écrit, tu peux rire. Pour j'ai créé un truc là-dedans, moi, c'est bien trop intelligent. Tu m'as dit de rien rajouter. Pour les invités, c'est pareil. Bonjour, Anna, c'est gentil d'être là. Toi, pour parler de ton spectacle et d'un combat qui te colle à la peau. Et nous, disons-le, pour nous donner bonne conscience. C'est pour ça qu'on t'accueille. Si, c'est tout, c'est la vérité. Parce que moi, je vais te dire la vérité sur ces gens-là. La semaine prochaine, sur ton siège, c'est Patrick Sébastien. Voilà, je l'ai dit. Voilà, t'es là en train de tout déconstruire. T'inquiète pas, ma grande, il arrive la semaine prochaine pour tout reconstruire. Alors, t'es vraiment la salade du midi avant la raclette du soir pour se donner bonne conscience. Ah ouais, désolé. Mais non, mais il y a que des regards menaçants autour de la table. Non, mais 1h10 sur la grève de sexe, ils font genre ça les intéresse, dans deux semaines à ta place c'est un mec qui a buzzé pour tout l'inverse, mais c'est pas grave, il faut plus de femmes partout, je suis d'accord avec vous, c'est ça la solution, même en politique, moi je pense en politique aussi, je coupe comme ça, je vais plus vite vers la fin, t'inquiète, même en politique, le cornu il avait mis 3 meufs dans son gouvernement en prank, pour moi c'était un prank, il a jamais non, il avait un gouvernement, il a dit vous avez flippé, c'est faux, je dégage, c'est faux, mais donc il avait mis 3 meufs, alors que moi j'en veux plus, voilà j'en veux plus, par exemple moi j'ai une idée, ministre des sports, j'aimais bien moi David Douillet, parce que si, j'aimais bien. Et là aussi, je pense qu'il faut peut-être une ancienne maître des arts martiaux. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
Nawel Madani, par exemple. si, arrêtez, elle est excellente. Vous avez vu une agression, j'ai vu une candidature spontanée. C'est ça, en fait. Si, un kick, un KO. Le petit Diogo, une photo, je te bats dans la cage thoracique, comme ça. C'est honteux ce qu'ils ont fait à 4 sur une femme. À 4, ils étaient 4. J'ai vu ça ce matin sur Morandini Live. Il était. Jaloux, c'était étrange parce que c'était des enfants. Mais il criait 4 enfants sur elle, 4 enfants et moi. Mais il avait l'air de faire plus chaud que d'habitude sur le plateau. J'arrête là.
T'arrêtes sur Morandini comme ça.
Non, j'arrête là. J'ai l'impression que votre conscience, elle est en train d'en prendre un coup, alors qu'à la base, on avait fait toute cette heure-là pour tout l'inverse.
Exactement. Merci beaucoup, Merwan Benlazar. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom. Enfin, si on a toujours le salaire pour, parce que comme vous l'avez souligné assez finement, les temps sont durs sur le service public. Merci beaucoup, Anna Mouglali, d'être venue nous présenter La chère et triste hélas, que vous jouez en ce moment au Théâtre de l'Atelier à Paris. C'est du mardi au samedi à 21h et c'est jusqu'au 26 octobre. Mais il y aura une tournée après, évidemment.
Ouais, il y aura une tournée.
Dans longtemps.
Ouais.
Merci encore, merci à tous les amis, Manon, Quentin, Cyril, celles et ceux qui nous aident à préparer Zoom Zoom Zen, Claire-Sophie Collet, Florence Dumalac, Pierre Courade, Pénélope de la Péchardière, Jade Bellag et Gérald Darnaud. À la réalisation, c'était Étienne Bertin, à la technique Rémi Sistiaga. Demain, on se retrouve dès 16h pour zoomer sur l'ultra-droite. En deuxième partie, on sera Bruce Toussaint, rien à voir. Quant à vous, il vous reste 48 heures pour réserver votre place pour notre émission en direct vendredi au Mucem à Marseille, fiestadesud.com. N'oubliez pas, une place réservée réserver un selfie avec la Marianoche offert.
Oh, bonne mère.
Zoom, zoom, zen.